Étude sur le chapitre 14 de la Genèse. Nous avons dans ce chapitre l'histoire de la révolte de cinq rois contre Kedorlaomer et de la bataille qui en suit la suite. Le Saint-Esprit peut s'occuper des mouvements des rois et de leurs armées quand ces mouvements touchent en quelque manière au peuple de Dieu. Abraham n'était pas personnellement impliqué dans cette révolte et dans ses conséquences. Sa tente et son autel ne risquaient pas de donner lieu à une déclaration de guerre, ni d'avoir à souffrir de l'explosion ou de l'issue de cette guerre. La part de l'homme céleste ne peut jamais exciter la convoitise ou l'ambition des rois ou des conquérants de ce monde. Mais si Abraham n'était pas intéressé dans la bataille de quatre rois contre cinq, il n'en était pas de même de Lot, car celui-ci se trouvait, par sa position, enveloppé dans toute cette affaire. Aussi longtemps que, par la grâce, nous marcherons dans le sentier de la foi, nous serons placés en dehors des circonstances qui affectent ce monde. Mais si nous abandonnons notre position sainte et céleste de bourgeois des cieux, Philippiens 3:20, et que nous recherchions un nom, une place et une part sur la terre, nous devons nous attendre à participer aux convulsions et aux vicissitudes de ce monde. Lot s'était établi dans les plaines de Sodome et fut par conséquent profondément affecté par les guerres de Sodome. Quel témoignage Lot pouvait-il rendre dans Sodome? Un témoignage bien faible tout au plus. Le fait même qu'il s'était établi dans ce lieu avait donné le coup de mort à son témoignage. S'il eut seulement prononcé une parole contre Sodome et son train, il se fût condamné lui-même, car pourquoi y était-il entré? Mais il ne paraît pas, d'après ce que nous lisons dans l'Écriture, qu'en dressant ses tentes jusqu'à Sodome, Lot ait eu en aucune manière pour but de rendre témoignage à Dieu. Des intérêts personnels et de famille semblent avoir été le mobile déterminant de sa conduite, et bien que l'apôtre Pierre nous dise que Lot tourmentait de jour en jour son âme juste à cause de leurs actions iniques, toujours est-il que Lot n'a pu avoir que peu de force pour combattre cette méchanceté, alors même qu'il eût été disposé à le faire. Au point de vue pratique, il est important de remarquer que nous ne pouvons être gouvernés par deux objets à la fois. Je ne peux pas avoir pour but en même temps mes intérêts temporels et ceux de l'Évangile de Christ. Rien n'empêche sans doute que je me propose de vaquer à mes affaires et de prêcher aussi l'Évangile. Mais il est clair que l'une ou l'autre de ces choses sera mon objet. Paul prêchait l'Évangile tout en faisant des tentes, mais c'était l'Évangile, non la fabrication des tentes, qui était son but. Si j'ai mes affaires en vue, ma prédication ne sera qu'une œuvre de formalisme sans fruit, si même elle n'est pas un prétexte pour sanctifier ma cupidité. Notre cœur est perfide et nous trompe souvent d'une manière étonnante quand nous désirons atteindre un but particulier. Il nous fournit les raisons les plus plausibles pour faire ce que nous désirons, tandis que les yeux de notre entendement, obscurcis par des intérêts personnels ou par une volonté non jugée, sont incapables de discerner la nature de ces prétextes. Combien ne rencontre-t-on pas de personnes qui, pour se maintenir dans une position qu'elles reconnaissent être fausse, s'appuient sur ce que cette position leur procure un cercle d'activité plus étendu? Écouter est meilleur que sacrifice, prêter l'oreille meilleur que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, 22. Telle est la seule réponse de Dieu à tous ces raisonnements. L'histoire d'Abraham et de Lot ne prouve-t-elle pas suffisamment que le moyen le plus sûr et le plus efficace de servir le monde, c'est d'être fidèle envers lui en se séparant de lui et en témoignant contre lui? Cependant, souvenons-nous-en, la vraie séparation du monde ne peut résulter que de la communion avec Dieu. Nous pourrions nous séparer du monde et faire de notre personne le centre de notre existence, comme un moine ou un philosophe cynique. Mais la séparation pour Dieu est tout autre chose. L'une glace et dessèche, l'autre réchauffe et épanouit. L'une nous renferme en nous-mêmes, l'autre nous fait sortir de nous-mêmes et nous rend actifs dans l'amour pour les autres. L'une fait du moi et de ses intérêts notre centre, l'autre donne à Dieu la place qui lui appartient. Ainsi, pour Abraham, nous voyons que le fait même de sa séparation le rendit capable de rendre un service efficace à celui qui, par sa marche mondaine, s'était trouvé impliqué dans la calamité. Et Abraham apprit que son frère avait été emmené captif, et il mit en campagne ses hommes exercés, 318 hommes, nés dans sa maison, et poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il ramena tout le bien, et ramena aussi Lot, son frère, et son bien, et aussi les femmes et le peuple. Verset 14. Après tout, Lot était le frère d'Abraham, et l'amour fraternel doit agir. Un frère est né pour la détresse. Proverbe 17:17. Et il arrive souvent que l'adversité amollit le cœur et le rend sensible à la bonté de ceux-mêmes dont nous avons dû nous séparer. Il est digne de remarque également que, tandis que nous lisons au verset 12, « Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham », le verset 14 dit « Et Abraham apprit que son frère avait été emmené captif ». L'affection d'un cœur de frère répond aux besoins d'un frère dans l'adversité. Ceci est divin. Bien que la vraie foi nous rende toujours indépendants, elle ne nous rend jamais indifférents. Elle ne s'enveloppe jamais tranquillement de chauds vêtements pendant qu'un frère souffre du froid. La foi fait trois choses. Elle purifie le cœur, acte 15, verset 9. Elle opère par l'amour, Galates 5, verset 6. Elle est victorieuse du monde, 1 Jean 5, verset 4. Et ces trois résultats de la foi apparaissent dans toute leur beauté en Abraham. Son cœur était purifié des souillures de Sodome. Il montra une vraie affection pour Lot, son frère, et finalement, il remporta une victoire complète sur les rois. Tels sont les fruits de la foi, ce principe céleste qui glorifie Christ. Toutefois, celui qui marche par la foi n'est pas à l'abri des assauts de l'ennemi. Souvent, de nouvelles tentations viennent l'assaillir immédiatement après une victoire. C'est ce qui arrive à Abraham. Et comme il s'en revenait après avoir frappé Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Verset 17. Cette démarche cachait évidemment un perfide dessein. Le roi de Sodome représente une pensée et une phase de la puissance de l'ennemi bien différente que celle que nous voyons dans Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui. Le premier nous fait entendre comme le sifflement du serpent, ceci comme le rugissement du lion. Mais, soit qu'Abraham ait affaire au serpent, soit qu'il ait affaire au lion, la grâce du Seigneur lui suffit. Et cette grâce agit en faveur du serviteur de Dieu au moment même du besoin. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et il le bénit et dit, « Béni soit Abraham de par le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Verset 18-20. Nous avons à remarquer ici en premier lieu le moment auquel Melchisédek entre en scène et en second lieu le double effet de son ministère. Ce n'est pas pendant qu'Abraham est à la poursuite de Kedorlaomer que Melchisédek vient à sa rencontre, mais bien quand le roi de Sodome est à la poursuite d'Abraham, ce qui fait moralement une très grande différence. Pour entrer dans une lutte d'un caractère plus sérieux que celle dont il venait de sortir, Abraham avait besoin d'une communion avec Dieu plus profonde aussi dans son caractère. Le pain et le vin de Melchisédek restaurèrent l'âme d'Abraham après sa lutte avec Kedorlaomer, tandis que la bénédiction fortifia son cœur pour la lutte qu'il allait avoir à soutenir contre le roi de Sodome. Bien que victorieux, Abraham était à la veille d'avoir à combattre. C'est pourquoi le sacrificateur royal restaure l'âme du vainqueur et fortifie le cœur du combattant. On éprouve une douce joie à considérer avec attention la manière dont Melchisédek présente Dieu à l'esprit d'Abraham. Il l'appelle le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Puis il déclare qu'Abraham est béni de la part de ce même Dieu. C'est une puissante préparation pour la rencontre avec le roi de Sodome. Un homme béni de Dieu n'avait pas besoin de ce que l'ennemi pouvait lui offrir. Et si le possesseur du ciel et de la terre occupait ses pensées, les biens de Sodome ne pouvaient avoir que peu d'attrait pour lui. Aussi, comme on peut s'y attendre, quand le roi de Sodome lui fait cette proposition « Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi », Abraham lui répond « J'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, possesseur du ciel et de la terre, qui depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, oui, si de tout ce qui est à toi, je prends quoi que ce soit, afin que tu ne dises pas, moi j'ai enrichi Abraham. » Abraham refuse d'être enrichi par le roi de Sodome. Comment aurait-il pu songer à délivrer Lot de la puissance du monde, si lui-même avait été gouverné par ce monde? Je ne puis délivrer mon prochain qu'autant que je suis libre moi-même. Aussi longtemps que je suis moi-même dans le feu, il est impossible que j'en retire un autre. Le chemin de la séparation pour Dieu est le chemin de la puissance, comme il est aussi le chemin de la paix et du bonheur. Le monde, sous toutes ses formes diverses, est le grand instrument dont Satan se sert pour affaiblir les mains et aliéner les affections des serviteurs de Christ. Mais que Dieu en soit béni, quand le cœur est droit envers lui, il vient toujours réjouir, encourager et fortifier au moment convenable. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. De Chroniques 16, verset 9. Il y a là une vérité encourageante pour nos pauvres cœurs tremblants et craintifs si nous désirons résister au monde, à la chair et à Satan. Christ sera notre force et notre bouclier. Il enseigne mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Psaume 144, verset 1. Il a couvert ma tête au jour des armes. Psaume 140, verset 7. Et finalement, il brisera bientôt Satan sous nos pieds. Romains 16, verset 20. Puisse donc le Seigneur garder nos cœurs dans l'intégrité envers lui au milieu de la scène qui nous environne.